Yann Esler pour les infos.
Bonjour, Neuchâtel va aussi demander un coup de pouce à l'armée. À l'image du Jura, notre canton a besoin d'aide pour accélérer l'administration de la troisième dose contre le Covid-19. De nombreux fonds durables se vendent aujourd'hui comme bons pour la planète. Pourtant, durabilité ne rime pas toujours avec écologie. Coupe de Suisse de judo ce week-end à la salle de la Riveraine à Neuchâtel, un événement majeur pour les clubs helvétiques qui sont privés de compétition interclub depuis 2 ans. Son organisation est assurée par le JC Cortaillot Neuchâtel. Enfin, cet après-midi, le ciel sera couvert avec de fréquentes averses. Les températures seront de saison avec des maxima à 8 degrés. Il y aura surtout du vent. Neuchâtel suit le Jura et le Valais. Le canton va demander l'aide de l'armée pour l'administration de la troisième dose du vaccin contre le Covid-19. D'après nos informations, certaines pharmacies de la région sont débordées et peinent à répondre aux nombreuses demandes. Car depuis aujourd'hui, les moins de 65 ans peuvent s'inscrire pour avoir leur injection complémentaire. Et pour prétendre à cette dose de rappel, les personnes doivent respecter un délai de 6 mois au moins après leur immunisation complète. Il est donc nécessaire de trouver des solutions pour accélérer ce rythme. Claude-François Robert, médecin cantonal.
On va mettre un grand coup de collier pour justement donner accès à cette troisième dose au plus de monde dans ces prochaines semaines. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que les ressources en infirmières pour réaliser les vaccinations commence à être un petit peu plus limité, donc ça nous semble sensé de voir si on peut avoir un appui de l'armée. C'est une question qui a été discutée ce matin avec le chef du département et puis le conseil d'État, donc il y aura sûrement une demande qui va se faire dans ce sens.
Le canton de Neuchâtel va suivre le Jura et le Valais dans cette demande. Au-delà de l'armée aussi, qu'est-ce qui peut être imaginé au niveau de la mise en place pour pouvoir assurer rapidement cette troisième dose?
Alors actuellement, on a beaucoup de place au centre de vaccination de Polyexpo à La Chaux-de-Fonds, mais la place est un petit peu plus limitée dans le bas du canton. Donc on va essayer de renforcer notre capacité, notamment dans l'unité de vaccination qu'on a montée à la gare de Neuchâtel. Et puis là, justement, la question qui se pose, c'est d'avoir éventuellement plus de ressources pour administrer les injections.
Claude-François Robert était au téléphone de Jean-Paul Picci. Côté Suisse, 4 cantons de Suisse orientale, Saint-Gall, Thurgovie et les 2 Appenzell réintroduisent l'obligation du port du masque lors d'événements tenus en intérieur ou en extérieur. Il en va de même pour les stations de transport public et les gares. Saint-Gall élargit même cette obligation à tous les bâtiments. Les fonds verts ont plutôt la cote. Selon Swiss Sustainable Finance, la gestion durable pèse aujourd'hui plus de 1500 milliards de francs en Suisse. Entre 2015 et 2020, les volumes ont été multipliés par 10. L'offre s'est donc beaucoup développée ces dernières années et satisfait pour l'instant la demande croissante selon les experts. Mais alors, est-ce que tout ce qui est présenté comme durable est réellement écologique? Alors que se tient actuellement à Genève la semaine de la finance durable, on fait le point avec vous, David Sanchez.
Les placements durables ne se concentrent pas que sur l'environnement, ils s'intéressent aussi au social et à la gouvernance. Donc pour déterminer si un fonds est durable, on applique des critères ESG. Avec le E, on va retrouver l'empreinte carbone ou l'utilisation de l'eau. Avec le S, la sécurité et la formation des collaborateurs. Avec le G, l'égalité des genres dans les organes dirigeants ou dans la structure des actionnaires. Donc le spectre couvert par les investissements durables est en fait bien plus large que celui des investissements climatiques. Il faut savoir qu'il n'existe pas de label de garantie, donc chaque établissement bancaire et agence de notation fixe ses propres critères qui sont validés par la FINMA, mais il n'y a pas de standard minimum imposé, comme nous l'explique Victor Vogt, responsable de la gestion de portefeuille d'actifs à la BCN.
Alors en fait, il n'y a pas de critère minimum, parce que chaque fonds aura sa propre interprétation et ses propres critères de ce qui est durable. Vous avez certains fonds qui vont dire qu'ils vont exclure, par exemple, l'industrie du tabac, et d'autres qui ne vont pas l'exclure. Vous avez des fonds qui vont investir simplement dans une thématique, et d'autres qui vont investir dans le marché, dans sa globalité. Donc il n'y a pas de critère minimum, il faut simplement qu'il y ait des critères qui soient crédibles et suffisants pour pouvoir appeler ça durable, mais pas de minimum.
On comprend avec ça l'importance de l'exactitude des informations que transmettent les entreprises aux banques pour pouvoir cataloguer correctement les fonds d'investissement. La transparence est donc un enjeu majeur dans le domaine, mais aussi la standardisation des données qui permettrait aux agences de notation d'être cohérentes entre elles. Mais attention, plus de transparence ne se traduit pas forcément par une augmentation du volume de données. Les explications de Pierre-François Donzé, responsable de la gestion de portefeuille d'actifs à la Banque Bonhôte.
Plus on a de données, plus leur interprétation devient complexe et probablement que l'industrie aurait meilleur temps à terme de se concentrer sur un univers plus rigide d'éléments, de standardiser les processus, de standardiser les types de réponses qui peuvent être remontées en fonction des éléments pour avoir quelque chose de plus homogène. Et à ce moment-là, le traitement de cette donnée au niveau d'un fonds deviendra plus pertinent. Parce qu'aujourd'hui, les disparités entre les différents fournisseurs officiels de notation ESG, alors vous en avez qui sont des standards du marché, et puis vous en avez d'autres qui sont des acteurs privés qui, eux, vont refaire ce travail de traitement de l'information pour remonter une note, soit générale, soit spécifique, de durabilité. Et si les inputs sont de bonne qualité et standardisés, on va aller vers quelque chose qui va être beaucoup plus convergent en termes de notes finales.
En résumé, ce sont les entreprises vendeuses qui fournissent toutes les informations sur leurs propres actifs et chaque banque et agence de notation a ses critères maison pour les juger. De quoi faciliter dans certains cas l'éco-blanchiment et donc de limiter directement la crédibilité de ces produits soi-disant verts.
Merci David Sanchez pour toutes ces précisions. On rappelle que vous pourrez bien sûr retrouver plus d'informations sur notre site internet rtn.ch. L'intelligence artificielle, est-ce une chance ou une menace? L'IA fait déjà partie de nos vies et cette tendance ne va faire que s'accentuer ces prochaines années. Certains y voient un outil essentiel pour bâtir l'avenir de l'humanité et d'autres estiment qu'il s'agit au contraire d'une menace pour l'existence de l'espèce. C'est le sujet de Code IA Software Hard Law, un ouvrage collectif paru chez Georg Editor et dont le directeur de publication est le mathématicien et informaticien actif à Neuchâtel, Xavier Contès. Ces prochaines années, l'IA va mener à des révolutions technologiques et économiques, mais elle va également nous obliger à adapter nos lois. Xavier Contès.
À la première révolution industrielle, il ne faut pas oublier que la société anonyme est née. C'était pour protéger le capital, hein, protéger les investissements. Et ici, on a un problème, c'est est-ce qu'on ne devrait pas protéger l'IA sur la bêtise humaine, mais aussi l'IA contre elle-même. Et donc, on lui donne un statut juridique, on va lui donner des droits, mais on va aussi pouvoir l'attaquer. Hein. Donc, c'est des droits et des devoirs. Aujourd'hui, elle n'a ni droit ni devoir. Et par exemple, je vous donne un exemple tout bête, et si une IA fait une invention, qui détient le brevet? L'IA ou le fabricant du programme ou l'utilisateur du programme? Oui, c'est pas clair. Ça, il faut un peu trouver des solutions juridiques claires.
Xavier Contès était l'invité de David Sanchez que vous avez entendu tout à l'heure. C'était dans la matinale de RTN. L'interview intégrale est à voir en vidéo sur rtn.ch. La Suisse ne doublera pas sa contribution à la cohésion de l'Union européenne. Le Conseil national a refusé une proposition qui vise à donner un signal positif à Bruxelles après la rupture des négociations sur un accord cadre. La commission de politique extérieure de la Chambre du peuple avait proposé de faire passer la contribution de la Confédération de 953 millions de francs à près de 2 milliards. Cette hausse était soumise à une condition, la signature d'ici à la mi-22 de l'accord d'association avec la Suisse au programme européen en cours Horizon Europe, Digital Europe ainsi qu'Erasmus+. La transparence de son côté dans l'administration fédérale a 15 ans, mais demander de consulter un document officiel peut être assorti d'un émolument susceptible parfois d'être dissuasif. Dans la pratique, 97% des requêtes sont gratuites. Après un long processus entre les chambres, ce matin, le Conseil des États a ratifié le principe de gratuité. Il a été aussi soutenu par le Conseil national. C'est une petite révolution dans un Conseil des États qui n'aime pas beaucoup la transparence. Et c'est une victoire pour la sénatrice verte genevoise Lise Amazon, qui est parvenue à convertir des élus PLR et UDC.
Ça correspond à la pratique et il y a quelques cas isolés qui sont extrêmement problématiques où on demande des émoluments disproportionnés par rapport à la charge de travail et ces cas-là, c'est l'arbitraire, on doit y mettre fin. C'est un pas très clair vers une administration qui soit ouverte, qui soit à disposition des citoyennes et des citoyens. Parce que, justement, ce principe de gratuité est posé, on a le droit d'accéder à ces documents officiels. C'est un signal important pour le Conseil des États. Le Conseil des États, dans ce genre de questions, a tendance à dire soit alors on ne change rien, surtout aucune amélioration, ou alors encore on durcit les conditions. C'est une victoire de la transparence et c'est une victoire d'une vision moderne de l'administration et de la façon de gérer l'État.
Les sénateurs romands ont été très partagés. Ceux de gauche ont soutenu la gratuité, tout comme la PLR, Johanna Gapani. Marianne Marais s'est abstenue, mais les autres élus du PLR et du centre s'y sont opposés. Enfin, une limitation de vitesse générale à 80 km/h durant la nuit sur un tronçon d'autoroute très fréquenté est disproportionnée. Le tribunal administratif fédéral rejette des demandes de la ville de Zurich et de l'ATS qui invoquaient la protection contre le bruit. En cause, le tronçon entre Zurich Nord et Brutiselen, qui est l'autoroute la plus chargée de Suisse avec une moyenne de 150 000 véhicules par jour. Lors d'un contrôle, l'OFRU avait constaté que les mesures anti-bruit étaient insuffisantes. Une demande pour baisser le kilométrage a donc été faite. Mais le TAF a dit que ça serait non.
12h25 sur RTN.
Sport. L'effervescence de retour sur les tatamis. Le judo club Courtaillon-Neuchâtel organise ce week-end à la salle de la Riveraine la Coupe de Suisse. Il s'agit d'une première. Cette manifestation majeure remplace en effet les championnats de Suisse interclub qui s'étalent sur une saison complète et dont les deux dernières éditions ont été annulées. Ce rendez-vous va réunir aussi bien les hommes que les dames et aussi les meilleurs clubs du pays. Surtout une kyrielle de combattants. Il devrait être aux environs de 500 à se mesurer sur ces tatamis neuchâtelois. Un événement qui est donc très attendu vu que le climat et l'incertitude liée aux mesures sanitaires a largement compliqué sa mise sur pied. Les explications de Désiré Gabriel du JC Cortaillo.
Jusqu'à il y a deux semaines, tout était plus ou moins clair. Et ces deux dernières semaines, il y a pas mal avec les variants qui sont arrivés. Des restrictions sur les ports de masques, sur les concepts de protection, sur les fermetures de frontières. Donc là, ça augmente un peu le stress. Et surtout, jusqu'à hier, il y avait quand même une grande incertitude au niveau du public.
Ce climat d'incertitude en termes logistiques, vraiment, ça pèse sur un organisateur.
C'est extrêmement pesant. Sur un objectif, on sait où on va, ce qu'on veut. Finalement, ça nous met des bâtons dans les roues. C'est compliqué quand on ne le sait pas. Si on sait qu'on n'a pas de public, on fonctionne sans public. On sait ce qu'on a à faire. Si on a du public, on sait ce qu'on doit faire. On organise dans cette direction-là. Mais dans le ventre mou, c'est un peu compliqué, oui.
Et sur le plan sportif, le judo club Courtaillon demeure l'un des clubs phares du pays. Il vise une médaille aussi bien dans le tournoi masculin que le tournoi féminin. D'ailleurs, chez les dames, le JC Courtaillon a toujours décroché une breloque lors des 12 dernières éditions des championnats de Suisse interclub. Enfin, en voile, Alinghi est de retour dans la Coupe de l'América après 11 ans d'absence. Selon une nouvelle du New Zealand Herald, le syndicat suisse a payé la taxe d'inscription pour avoir le droit de disputer la 37e édition de la Coupe de l'América. Celle-ci aura lieu en 2024 du côté d'Alinghi. Pour l'instant, on se refuse à tout commentaire.